jusqu'à 9h, Good Morning Business.
Il est 7h44, le PLF au Conseil des ministres et le rapporteur général du budget à Good Morning Business. Bonjour Jean-René Cazeneuve.
Bonjour.
Alors, est-ce que ce budget 2023 est sincère? Normalement, en finances publiques, c'est la règle de base. Est-ce qu'il est sincère? Vous tablez sur 1% de croissance pour obtenir 5% de déficit. Est-ce que c'est pas un peu optimiste?
Bien sûr qu'il est sincère. En tous les cas, c'est notre objectif. 1%, c'est plutôt la fourchette haute, vous avez raison,
oui.
Il y a un peu de volontarisme politique par rapport à ça.
Moins 0,5.
Mais on se permet d'être sur la fourchette haute parce que sur l'année 2022, les mêmes qui prédisaient une croissance l'année prochaine de 0,5, prédisaient une croissance de 2 et on va terminer probablement à 2,7. Donc sur l'élan, l'inertie un petit peu d'année 2022, je pense qu'on peut atteindre ce 1%. En tous les cas, c'est l'hypothèse de base.
Alors, sincère, mais on l'a appelé à BFM Business le budget bouclier. Bouclier sur l'énergie, bouclier sur le pouvoir d'achat, parce qu'il essaye de protéger les Français. Est-ce que du coup, ce n'est pas intenable?
Écoutez, l'équation est difficile parce qu'on est dans un contexte géopolitique très incertain et je vois très bien ceux qui vont nous accuser dès ce matin de ne pas avoir fait les bonnes prévisions, de l'avoir sous-estimé, d'avoir surestimé. Donc il faut être très modeste, je crois, et être capable de réagir parce que la crise va continuer à évoluer. Bien malin, qui peut nous dire aujourd'hui quel sera le cours du baril l'année prochaine, quand va se terminer la guerre en Ukraine. Donc oui, il y a des incertitudes qui sont très fortes, mais avec ces données-là, eh ben, on essaie d'être le plus sincère possible. Il faut protéger les Français, peut-être pour répondre à votre question, il faut continuer à protéger les Français. C'est probablement ce que nous avons fait de mieux encore cette année. Hein. Et l'inflation est 3 points ou 3,1 points en dessous de ce qu'elle aurait été. Donc c'est bon pour le pouvoir
d'achat. Mais la question, c'est la fuite en avant. C'est que si les cours de l'énergie continuent, est-ce qu'on continue avec ces boucliers? Est-ce qu'on ne peut plus jamais s'arrêter? On est dépendant désormais à l'État qui paye les factures d'électricité et de gaz.
Alors, deux choses, vous avez raison. Donc notre priorité, ce n'est pas de protéger nécessairement les Français. Notre priorité, c'est de faire baisser le prix du gaz et le prix de l'électricité. Hein. Donc on a une conjoncture aujourd'hui... Pas de chance avec ce qui se passe côté de nos centrales nucléaires, mais on essaye évidemment au niveau européen de découpler le prix du gaz et le prix de l'électricité. On essaie de plafonner le prix du gaz et ça devrait amener mécaniquement, maintenant que nos réserves pour l'hiver sont prêtes, ça devrait amener une baisse du pouvoir d'achat. Et nous avons un bouclier, certes, mais qui est quand même 15% plus élevé que cette année. Donc il y aura un effort aussi qui sera demandé aux Français.
Alors il y a ceux qui vous accusent, et c'était ce matin sur ce plateau avec Nicolas Dose et Jean-Marc Daniel, aussi de ne pas respecter les traités européens. Non pas parce que vous faites des déficits, parce qu'il y a la situation conjoncturelle et les traités nous autorisent de dépenser plus pour soutenir la croissance, en tout cas pour accompagner le ralentissement économique, mais de ne pas respecter nos engagements en matière de déficit structurel. Vous ne le baissez que de -0,2, -0,3 en 2023, alors que les traités... Normalement, nous oblige à le baisser de -0,5.
Je crois que la France est très crédible et reste très crédible au niveau européen. Donc c'est vrai que l'année prochaine, de ce point de vue-là, est une année qui reste compliquée parce qu'à la fois nous voulons continuer à protéger les Français, et je pense que c'est ce que les Français nous demandent, à la fois nous voulons soutenir nos politiques, nos priorités. Donc qui peut aujourd'hui contester le fait qu'il faille augmenter le salaire des enseignants? Personne. Qui aujourd'hui peut nous dire qu'il ne faut pas augmenter le budget de la défense dans le contexte géopolitique que nous connaissons? On est dans un contexte tout à fait particulier.
Oui, mais sauf que vous savez que vous avez bien vu les marchés, vous avez vu comment les devises cette nuit ont été chahutées, c'est moins qu'on puisse dire, un vrai ouragan sur le marché d'échange avec la livre sterling qui est à parité avec le dollar, l'euro qui est à 0,96 désormais. Il faut que la France soit crédible. On a l'Italie qui vient de mettre d'élire une majorité de droite et d'extrême droite. Si la France n'est pas crédible, si on ne respecte pas les traités, est-ce qu'il n'y a pas un risque quand même sur l'euro?
Alors, la France respecte les traités. La France s'engage, parce qu'on parle du PLF,
pas
du budget 2023.
On n'est pas à -0,5 pour 2023. Hein.
Peut-être pas assez vite. Mais c'est pour ça qu'il faut accélérer la réforme. On peut en toucher deux mots tout à l'heure. Mais il faut. C'est la raison pour laquelle, en même temps que le budget 2023, on donne aussi une trajectoire sur les 5 prochaines années pour atteindre 3% de déficit en 2027. Donc voilà, l'effort, l'engagement de la France vis-à-vis de ses partenaires européens, il est là.
Vous parlez des efforts et des engagements et de la confiance. Il y a cette fameuse épine de la CVAE, promesse du gouvernement de la supprimer totalement. Elle va être supprimée en 2 ans. Nous, on a eu sur ce plateau le MEDEF, mais même des chefs d'entreprise dire la confiance est trahie. À un moment donné, la parole donnée ne compte plus.
Non,
C'est vrai.
Ils sont libres de dire ce qu'ils veulent.
Je vous le dis, c'est important
Mais franchement, ils exagèrent. Quand je vois... la politique de l'offre, sous le premier mandat, a permis de réindustrialiser la France, en tous les cas d'inverser les courbes, de créer un nombre d'emplois extrêmement, extrêmement important. On a significativement baissé les impôts des entreprises. Donc, elles ne peuvent pas dire le contraire. Et on va continuer. On a dit qu'on le ferait sous le mandat. Certains ont compris qu'on le ferait tout de suite la première année. Ce n'est pas tout à fait ce qui a été précisé. On le fait en deux ans. C'est 4 milliards de baisse dès 2023 et 4 milliards de baisse supplémentaires en 2024. Il y a beaucoup de pays qui aimeraient avoir cette politique fiscale.
Alors, est-ce que vous allez toucher au crédit impôt recherche? Parce qu'on a vu que Gabriel Attal, le ministre du Budget, que nous recevrons sur ce plateau dans deux jours, à 8h15, dit que peut-être qu'effectivement, parfois, ça ne fonctionne pas très bien, il y a peut-être des abus. Est-ce que vous allez toucher ce totem?
Écoutez, c'est un sujet assez délicat.
Je vous le confirme.
On regarde. Pour être très honnête,
vous ne l'excluez pas.
On regarde. On ne bougera pas en 2023. Pourquoi on ne bougera pas en 2023? Parce que sur les cycles de recherche, il faut du temps. On ne peut pas décider maintenant, on ne peut pas dire aux entreprises, alors qu'elles ont des problèmes de recherche qui s'étalent sur des années, etc. etc. Donc, il nous faut du temps pour bouger. Mais c'est vrai que si on se projette à terme, il n'est pas possible que la France, l'État français, soutienne autre chose que des programmes de recherche en matière de transition énergétique. Ouais. C'est quand même une priorité qui
s'impose à nous. Il faudra recentrer sur cette transition.
Il faut du temps pour le faire. Il faut aussi regarder, parce qu'il y a des secteurs pour qui c'est plus complexe de le faire. Qu'est-ce que ça veut dire dans le secteur pharmaceutique, par exemple, que de faire de la recherche sur la transition écologique? Donc, c'est pas aussi simple que ça. Donc, il faut pas être caricatural. Donc, on ne touchera pas au crédit impôt recherche l'année prochaine.
Ça, c'est important,
mais il faut
votre
qu'on
engagement,
se donne un cap.
Conditionné à des projets.
On ne bougera
précis.
Pas l'année prochaine. Il faut qu'on se donne un cap pour le verdissement du crédit d'impôt recherche.
Tout à l'heure, vous avez dit qu'il faut accélérer les réformes.
Oui.
J'imagine que vous pensez à la réforme des retraites. C'est ça qui va sauver globalement les engagements français, la part des déficits et de la dette. C'est d'accélérer la réforme des retraites sous forme d'amendements au PLFSS.
Quand vous regardez les contraintes de notre pays, on a un niveau de prélèvement obligatoire qui est pratiquement record. On est le numéro 2 en Europe. On ne peut pas augmenter les prélèvements obligatoires. On a un niveau de dette, d'endettement, qui est aussi extrêmement important. Est-ce qu'il est responsable vis-à-vis des générations futures que de continuer à augmenter la dette? Non, il faut rapidement réduire ce déficit. La seule marge de manœuvre que nous ayons, c'est de travailler plus, aussi simplement que ça. Et ceux qui disent le contraire sont des menteurs, prennent une lourde responsabilité vis-à-vis des Français. Donc c'est à la fois la réforme des retraites qu'il faudra faire le plus vite possible, c'est à la fois la réforme des allocations chômage, c'est à la fois le retour au travail le plus rapidement possible de ceux qui sont au RSA, il faut les accompagner. Donc voilà, c'est cette valeur travail que nous défendons, là où une partie de la gauche, aujourd'hui, s'est perdue dans une sorte le travail n'est plus une valeur, maintenant c'est...
Valeur de droite.
C'est devenu une valeur de droite.
Dit Sandrine Rousseau.
C'est l'apologie de la paresse. Un certain nombre de partis de gauche aujourd'hui.
Vous savez qu'il y a deux camps. Il faut choisir le vôtre dans la majorité sur la réforme des retraites. Prendre son temps, comme le dit François Bayrou, ou aller vite, comme le dit Édouard Philippe, et faire un amendement au PLFSS. Que dites-vous?
Il faut le faire le plus vite possible. La Première ministre est sur BFM dans une demi-heure. Elle vous répondra très clairement à cette question. Dans tous les cas, il faut le faire vite. Donc, qu'on le fasse dans le cadre du PLFSS ou en début d'année prochaine. Pour moi, dans les deux cas, c'est possible. Il faut le faire vite. C'est extrêmement important, à la fois pour équilibrer notre régime de recettes et à la fois pour se donner des marges de manœuvre.
Vous êtes parlementaire. Ça ne vous choquerait pas que cette réforme si structurante et si importante soit faite sous forme d'amendement?
Oui, mais vous voyez, quand on dit un amendement, d'abord c'est dans le PLFSS, c'est sa place, parler des retraites, les LR mettent des amendements sur l'âge de la retraite depuis très longtemps. Bon, un amendement, c'est pas simplement une ligne, vous voyez, ça peut être très... il peut y avoir beaucoup d'amendements, il peut y avoir beaucoup de mesures, il peut y avoir les mesures aussi d'augmentation de la retraite minimale. Donc, un amendement, c'est pas comme ça, quelque chose qui est une pierre qui est lancée. Ça ne me choquerait pas. Pourquoi? Parce que le débat... il a lieu depuis des années, des années, des années. Il y a eu 2 ans de débat entre 2018 et 2020 sur les retraites. Je ne dis pas que tout a été dit. Donc, évidemment, il faut une concertation. Évidemment, il faut continuer cette concertation. Mais en même temps, il ne faut pas, sous prétexte que c'est une mesure difficile, la retarder.
Alors, on a compris.
Concertation rapide.
Compris, ça sera très rapide et ça ne vous choquerait pas. Et en plus, la Première ministre, effectivement, nous le dira peut-être dans une demi-heure. Donc, tout ça me semble aller dans le même sens. Merci d'avoir été aussi clair, Jean-René Cazeneuve. Rapporteur général du budget à l'Assemblée nationale.